France Culture.
C'est l'heure du journal donc. François Chagnot. Bonsoir François.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. La terreur envahit les rues de Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, est encerclée par les rebelles du M23 et les troupes rwandaises. Témoignage d'un habitant dès le début de ce journal. 22 morts et 124 blessés dans le sud du Liban. L'armée israélienne a ouvert le feu sur des déplacés qui tentaient de retrouver leur village. Et puis enfin, décontaminer nos imaginaires visuels de l'Holocauste. C'est la mission d'une exposition qui se tient au mémorial de la Shoah à Paris à l'occasion des 80 ans de la libération d'Auschwitz. L'étau se resserre autour de la grande ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du groupe M23, soutenus par le Rwanda, ont encerclé la capitale régionale peuplée d'un million d'habitants. Les combats sont de plus en plus violents entre les casques bleus et l'armée congolaise d'un côté et les forces rwandaises et M23 de l'autre. Kinshasa dénonce à l'instant une déclaration de guerre du Rwanda. Emma Voglimaxi a pu joindre un habitant et humanitaire de Goma où la peur se répand.
Les rues de Goma sont désertes, la population est cloîtrée chez elle. Selon Jacques Chimanuka, les habitants sont effrayés. Pour eux, l'arrivée du M23 est synonyme de flambée des violences.
C'est la panique au sein de la population parce que nous sommes entrés d'entendre déjà les détonations de bombes, des armes lourdes autour de la ville, et voilà, de militaires qui maintenant qui commencent à installer leur position au sein même de la ville. Vraiment, c'est un sentiment d'angoisse.
Aux alentours de la ville, certains prennent la fuite, mais les habitants de Goma sont pris au piège. Toutes les routes sont barrées, l'aéroport a été évacué, la ville est sous blocus. Résultat, les habitants ont des difficultés pour se ravitailler et se soigner.
Il n'y a qu'un seul hôpital qui traite les cas de blessures par balle ici, l'hôpital Sebe Kandosho, qui a un appui financier, parce que les gens sont soignés gratuitement à cet hôpital. Et maintenant, l'hôpital est vraiment bondé, de sorte qu'on commence même à installer des tentes qui abritent des blessés, des militaires et des civils confondus. C'est vraiment compliqué.
Depuis le début du mois de janvier, le conflit a déjà fait des centaines de morts et 400 000 déplacés. Malgré la situation, Jacques Chimanuka espère encore que les Nations Unies vont faire pression et empêcher la prise de Goma par les rebelles.
L'ONU a appelé les forces rwandaises à se retirer du pays à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité cet après-midi. Des milliers de Libanais pensaient retrouver leur maison au sud Liban après des mois d'exil. Eh bien, c'est par les balles de l'armée israélienne qu'ils ont été accueillis. 22 d'entre eux sont morts aujourd'hui. Israël bloque l'accès à cette région frontalière. Pourtant, l'État hébreu s'était engagé à ouvrir le passage dans l'accord de cessez-le-feu passé avec le Liban il y a deux mois, Arthur Saradin.
Ce matin, ils étaient des centaines de Libanais déterminés à retrouver les villages frontaliers que certains avaient quittés parfois depuis plus d'un an. Une soixantaine de villages sont concernés par ce retour en masse des habitants. Des cortèges aujourd'hui qui brandissaient quasi systématiquement le drapeau du Hezbollah. Mais côté armes, on a surtout vu celle de l'armée libanaise qui a commencé à se déployer dans de nombreux villages frontaliers. L'accord de cessez-le-feu veut justement que ce soit cette armée régulière qui prenne la place de l'organisation chiite dans le sud du pays. C'est d'ailleurs ce que le nouveau président libanais Joseph Aoun a appelé de ses voeux en demandant la complète intégrité territoriale du Liban. Le Hezbollah aura le droit d'exister en tant que parti politique mais ne devra en aucun cas posséder des armes au sud du pays. L'armée israélienne, quant à elle, devra cesser ses violations du territoire libanais, sans quoi le scénario de l'escalade, souvent le même dans cette partie du pays, pourrait encore se reproduire.
La même stratégie israélienne à Gaza où des dizaines de milliers de personnes attendent près du corridor de Netzarim. L'État hébreu interdit toujours l'accès au nord de l'enclave palestinienne en contradiction avec l'accord de trêve signé avec le Hamas. Israël accuse le mouvement islamiste d'en violer plusieurs obligations, notamment celle de ne pas avoir encore libéré Arbel Yehuda, une otage civile. Selon des sources palestiniennes, ce soir, une otage clé israélienne devrait être libérée avant le prochain échange entre prisonniers et otages. Il décrit lui-même son régime comme une démocratie brutale. Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko brigue aujourd'hui un septième mandat de président, un simulacre d'élection sans suspense dans un pays où l'opposition est systématiquement réprimée. Les organisations de défense des droits humains estiment que le pays compte toujours plus de 1200 prisonniers politiques. L'Union européenne maintiendra ses sanctions contre le régime Loukachenko, assure aujourd'hui la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Le Bélarus, véritable base arrière de la Russie dans sa guerre en Ukraine, Moscou revendique la prise aujourd'hui d'une ville stratégique dans la région de Donetsk, c'est dans le sud-est du pays. L'armée russe mène depuis plusieurs semaines une offensive pour atteindre la frontière de l'oblast voisin de Dnipropetrovsk à l'ouest. Mayotte s'apprête à accueillir à nouveau ses 117 000 élèves demain, un mois et demi après le passage du cyclone Chido. Les collégiens et lycéens reprennent d'abord les cours à mi-temps, sauf dans 3 établissements sur 33, toujours fermés. 39 des 221 écoles ne rouvriront pas non plus demain. Certains de ces établissements sont trop abîmés ou accueillent toujours des réfugiés de la catastrophe. Demain, nous célébrons la mémoire des victimes de l'Holocauste, 80 ans jour pour jour après la libération du camp d'Auschwitz le 27 janvier 1945. Donc, le mémorial de la Shoah à Paris organise une exposition sur les images de ce camp d'extermination. Elle est centrée sur un travail de décontamination de notre imaginaire visuel de la Shoah que mène l'historien Tal Brutmann, car l'usage des images, l'utilisation des images de ces camps nazis s'est souvent révélé problématique, Chloé Leprince.
La Seconde Guerre mondiale dans les programmes scolaires, ça date d'une réforme de 1959. Première photo dans les manuels de terminale en 62. Et dès le début, c'est très approximatif. Le manuel édité par Bordas montre des photos de déportés issus du camp de concentration de Dachau, tandis que chez Nathan, on voit des déportés allongés dans ce qui est présenté comme l'hôpital de Buchenwald. Et depuis 60 ans, ce qu'on a fini par appeler les photos des camps sont massivement et principalement utilisées comme des illustrations et des illustrations de la Shoah, alors que les centres de mise à mort n'ont jamais eu pour but la détention. C'est vrai des manuels scolaires, c'est vrai aussi de la presse. Les historiens n'en finissent pas de relever des erreurs dans les légendes ou le mésusage de photos de camps de concentration, de camps de prisonniers, de camps de travail, pour illustrer l'histoire des centres de mise à mort et la Shoah. Or, les images d'Auschwitz, plus grand centre d'extermination, sont nombreuses, mais trompeuses et souvent mal utilisées, alors qu'Auschwitz s'est installé comme le symbole ultime de l'Holocauste. 4 photos ont été prises sur place par Alberto Herrera, un résistant grec juif déporté. Toutes les autres, à l'exception des vues aériennes des Alliés, sont des photos prises par les nazis. De nombreuses séries de photos, des albums aussi, qui montrent au passage que des civils travaillaient à deux pas des chambres à gaz, qui montrent aussi que l'image était un support de promotion interne du travail bien fait. Ce qu'on a appelé l'album d'Auschwitz, par exemple, c'est en fait un document administratif à la gloire du patron du camp, Rudolf Höss, rappelé en catastrophe en 1944 dans un but, doubler la cadence et assassiner en 3 mois plus de 600 000 juifs hongrois, c'est-à-dire plus que tous les juifs exterminés sur place entre 1942 et 1944. L'immense majorité de ces juifs hongrois n'entreront même pas dans le camp, ils étaient aussitôt destinés aux chambres à gaz. La solution finale à leur visage, plutôt qu'une tenue rayée de l'autre côté des barbelés. Mais encore faut-il le dire en légende.
Et cette commémoration des 80 ans de la libération d'Auschwitz, on en parle demain avec les invités de Guillaume Herner dans les Matins de France Culture. Vous retrouvez d'ores et déjà de très nombreux articles, récits et témoignages à lire et écouter sur le site de France Culture et l'application Radio France. Protégez-nous de l'intelligence artificielle. C'est l'appel à l'aide aujourd'hui de Paul McCartney au gouvernement britannique. Depuis quelques semaines, Londres ouvre grand les bras au secteur de l'IA pour relancer la croissance. Mais pour l'ancien Beatles, cet accueil va trop loin, Émile Vin.
Londres pourrait autoriser l'utilisation d'œuvres musicales pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle sans payer de droits d'auteur. Incompréhensible pour Paul McCartney, l'ancien guitariste des Beatles, interrogé par la BBC.
Ces jeunes qui écrivent de magnifiques chansons, elles ne vont plus leur appartenir. Quiconque pourra venir se les approprier. Or, il y a bien quelqu'un qui va s'enrichir dessus via les plateformes de streaming. Ce devrait être les auteurs, pas un géant de la tech on ne sait où.
L'exécutif se dit ouvert à la discussion, mais insiste sur l'opportunité économique. Le musicien de 82 ans l'admet, l'IA peut être un outil formidable. Lui-même l'a utilisé pour ressusciter la voix de John Lennon en 2023.
Nous avons pris une vieille cassette de John et nettoyé sa voix. On a l'impression que ça a été enregistré hier. Mais ça appartenait à John, qui était membre des Beatles, et c'est sa veuve qui nous l'a donné. Il n'y avait pas de problème de propriété intellectuelle, on ne l'a pas volé.
Autre légende de la musique britannique, Elton John a apporté son soutien à Paul McCartney. Le secteur de la musique génère près de 5 milliards d'euros chaque année pour le Royaume-Uni.
France accueillera les 10 et 11 février prochains le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est le thème de Soft Power dans un instant avec vous, Frédéric Martel. Mais avant cela, un mot de météo. La tempête Herminia s'installe et va se renforcer cette nuit. Météo France a placé 9 départements en vigilance orange. Le Rhône, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées pour risque de vent violent. L'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire, le Calvados et l'Orne pour cru, le Morbihan pour pluie, inondation. Merci à Caroline Bento et Anthony Thomasson pour la préparation et la réalisation de ce journal.